Trainville BM. Politique.
Moi, je suis un homme d'affaires. Emmanuel est un homme d'affaires. On a eu beaucoup de plaisir. Et puis, bon, c'est un deal maker. Je suis un deal maker. Et il va y avoir des résultats. Il va y avoir des augmentations importantes de nos exportations vers la France.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'était le premier ministre François Legault de passage donc à Paris pour une visite officielle. Il parlait d'Emmanuel, évidemment Emmanuel Macron, le président français. Il dit c'est un deal maker. C'est quelqu'un qui brasse des affaires puis qui conclut des ententes, des accords, qui fait aboutir des investissements. C'est ça, un deal maker. Alors, vous venez d'entendre, c'est pas le journée.
Je veux dire, Emmanuel Macron brasse aussi du monde en France, et pour le meilleur et pour le pire, surtout.
Oui, il y a du monde qui le brasse. Et celui que vous venez d'entendre, après le « c'est Carl Bélanger, le consultant en communication stratège. Bonjour, Carl.
Bonjour.
Oui, enfin, je limitais ma définition à « dealmaker ». J'essayais pas de faire le portrait global de l'action de M. Macron jusqu'à maintenant.
Non.
N'est-ce pas?
Mais c'est ça, ils se sont déclarés dealmakers et aussi défenseurs de la francophonie.
Ah, c'est vrai. Alors, résume...
Des dealmakers.
Ouais. Dealmakers, oui, c'est ça.
du coup, tu veux que je te résume, Bernard?
Du coup, j'aimerais que tu me résumes.
Donc, François Legault est sur Paris.
Voilà.
Dimanche.
Voilà.
Il a accordé une interview à TV5 Monde. Aujourd'hui, des rencontres avec des leaders des affaires, avec les PDG de L'Oréal et de Fleury Michon. Ça, c'est une grosse entreprise en agroalimentaire. Et évidemment, les rencontres politiques avec le président Emmanuel Macron, le premier ministre Édouard Philippe et aussi les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Là, on était plus dans le protocolaire. Demain, à surveiller, François Legault va donner une allocution dans un dîner-conférence à la Bourse de Paris. Donc ça va être devant le who's who du milieu des affaires
On attend
français.
Quoi? Plusieurs centaines de personnes, apparemment.
350, selon le dernier décompte, et je ne suis pas sur la liste d'invités. Mercredi, il sera à Davos. Là non plus, on ne m'y verra pas pour des raisons de conflit d'horaire.
Les gens qui écoutent, ils vont se dire, comment ça? Pourquoi il aurait dû être là? Lui, t'as pas une scène à placer, là?
Bon point.
T'es juste un éditorialiste de la presse.
Deux en deux pour Bernard, je m'incline. Mais par contre, j'ai déjà été, j'ai accompagné Mme Marois dans sa mission en France en 2012. Et je veux te parler un peu de à quoi ça ressemble du point de vue d'une délégation du Québec aller à l'Élysée.
Les dessous.
Premièrement, le protocole, ça c'est bien important. C'est surprenant à quel point les gens s'attardent aux micro-détails. Parce que là, quand le premier ministre du Québec arrive, il faut que tu vérifies est-ce que le président français a descendu la moitié des marches pour l'accueillir, toutes les marches, est-ce qu'il est resté en haut, gros message aussi.
Quand... Et aujourd'hui, il est descendu jusqu'en bas.
Oui, je sais, j'ai vu ça.
Aujourd'hui, il a quasiment ouvert la porte.
Oui.
Puis il y avait Mme Macron avec lui.
Oui, ça aussi, ça veut dire quelque chose. Quand il serre la main, tu pars le chronomètre. Combien de temps ça dure?
Combien de temps il serre la main?
Tout à fait. Et c'est pour un premier ministre québécois, puis encore plus pour un pauvre journaliste québécois, c'est très impressionnant, l'Élysée. Écoute, c'est majestueux. C'est un palais présidentiel. Tu vois les dorures. Je ne suis pas rentré en dedans. J'ai juste vu les photos, puis je l'ai vu de l'extérieur. Puis je pense que ça impressionne tous les premiers ministres québécois lors de leur premier voyage. Il y a une espèce de verticalité dans le pouvoir français, une grandeur, une espèce de hauteur. Puis hier, on le voyait, M. Legault.
C'est la monarchie sous un autre nom. C'est la monarchie sous le nom de la démocratie. Ben, écoute. Mais non, mais avec tout le faste du pouvoir présidentiel, c'est quasiment du pouvoir monarchique.
Puis ils sont forts sur le protocole et sur l'étiquette, ça c'est certain.
Puis pourquoi je te raconte ça, Bernard, c'est pour mettre en contexte le sourire extrême de François Legault aujourd'hui.
OK, tout ça c'était juste la mise en contexte.
C'est juste la mise en contexte. Ah. Et j'ajoute à la mise en contexte, j'ouvre une parenthèse, alinéa 2B. Donc, pour comprendre comment les relations elles ont évolué, là, pour qu'on en arrive juste au bout, avec M. Legault qui parle vraiment d'économie. Là. Bon, on le sait, on n'est plus dans les contextes de crise constitutionnelle, etc. Mais quand même, les dernières visites, il y avait un peu plus de controverses, disons, ou de sujets non économiques. Mme Marois, il y a un journaliste qui lui avait posé la question en 2012. En fait, il avait posé la question, excuse-moi, au président Hollande. Oui. Il lui avait demandé, est-ce que l'interdiction du port de signes religieux, ça peut avoir un impact positif sur le vivre ensemble, le président Hollande avait dit oui. Et Mme Marois avait dit « François, c'est formidable ce que vous venez de dire ». Avec M. Couillard, ça s'était moins bien passé parce qu'il venait de tripler les frais de scolarité pour les étudiants français. Donc, tu vois, ça se déroule pas toujours rondement ou des fois, on a des sujets non économiques, mais pas dans ce cas-ci.
Non,
là,
c'est
avec
ça.
M. Legault, c'est l'économie, l'économie, l'économie.
C'est des deal-makers.
C'est des deal-makers et on fait des blagues, mais ils ont quand même raison de s'y intéresser parce que moi, il y a quelque chose que je ne savais pas, ou peut-être que je le savais puis je l'ai oublié, mais la France n'est que le 6e partenaire commercial du Québec et c'est même pas notre premier partenaire commercial en Europe. La France est derrière le Royaume-Uni puis l'Allemagne, malgré tous les liens historiques qui nous unissent. Échange annuel, 5 milliards. Ça, c'est moins qu'une semaine dans les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis. Puis on le sait à quel point c'est instable aux États-Unis. Il faut diversifier les marchés. Donc, c'est pour ça que M. Legault, il va plein gaz pour augmenter les échanges de biens et aussi augmenter les investissements. Le point d'interrogation qui demeure, c'est comment il va s'y prendre pour l'instant. Il est juste dans la stratégie générale. Il dit, écoutez, le Québec, on est éparpillé entre les interventions de la Caisse de dépôt, d'Investissement Québec, puis des différentes délégations. Ça, c'est les bureaux du Québec à l'étranger. Puis il dit, on veut coordonner tout ça, en faire une espèce de trio de prospection d'investissement.
Force de frappe.
Oui, c'est ça. Mais maintenant qu'on a dit ça, ça veut dire quoi concrètement? J'en ai aucune idée.
Mais c'est à lui de répondre à ce
question-là. Ben oui, tout à fait. Il n'y a personne qui m'a élu, moi.
Ben non, exactement.
Et il devrait en parler un peu demain. Puis il y a un plan d'action qui est en préparation. Donc, ne t'inquiète pas, le plan d'action arrive.
Très bien. Ah, si tu savais, tu viens tellement de calmer mon inquiétude. Alors, Carl, comment tu vois ça, toi, depuis ton perchoir d'Ottawa, là?
Écoute, ce que je constate, c'est que premièrement, les deux hommes semblent bien s'entendre. Ce sont des dealmakers, mais ce sont aussi des gens qui ont, un parcours politique assez similaire. C'est-à-dire, ils sont arrivés au pouvoir à la tête d'un véhicule politique qui, il y a quelques années, n'existait pas.
Ah, ça, c'est un bon point, ça.
Et qu'ils ont fondé.
Et qu'ils ont fondé eux-mêmes. Ont fondé donc, c'est des self-made men.
Oh là là! Des dealmakers et des self-made men.
Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, sans aller trop loin dans les prédictions, là, c'est que les deux ont misé un peu sur le ras-le-bol envers la classe politique traditionnelle, mais il faut livrer. Et dans le cas de Macron, ben, il n'a pas livré. Et les mêmes électeurs qui l'ont porté au pouvoir il y a quelques années, ce sont les gilets jaunes qu'on voit manifester et qui sont pas satisfaits du fait qu'Emmanuel Macron n'a pas livré. Est-ce que ça pourrait arriver au Québec? Écoute, on est loin de là, mais je trouve ça quand même intéressant à souligner.
Oui, non, c'est un très bon point. Il y a eu quoi? Un petit point de presse de François Legault au terme de toutes ces rencontres.
Et il a pu expliquer qu'il connaît la France, pas seulement pour ses hommes et ses femmes d'affaires, mais aussi pour ses artistes. Et il a parlé d'une chanteuse qu'il aime bien, qu'il a légèrement rebaptisée. En gros, il a ajouté une voyelle pour le fun.
Je voyais dernièrement Zaza, là, qui... un tabac, comme vous dites, chez nous.
C'est Zaza, vous écoutez ces chansons.
C'est comique parce que hier soir, lors de mon souper avec des gens d'affaires, il y a des gens qui connaissaient Isabelle. Quand je suis venu pour parler d'Isabelle, j'ai pensé que son surnom, c'était Zaza, mais c'est Zaz. Je vous chanterai pas sa chanson que j'aime beaucoup, mais c'est une artiste que j'aime beaucoup.
OK, c'est Zaz. Écoute, et non pas Zaza.
Il aimerait peut-être la reprendre, mais si c'est la controverse de son voyage...
Oh, je suis d'accord.
Hein? Legault fait un tabac.
Il s'en sort bien. Ouais. C'est juste ça, là. Hein? C'est la seule controverse que Paul Journet trouve à soulever de ce voyage. Il s'en sort très bien, mesdames et messieurs.
Je te promets que je vais fouiller, Bernard.
Oui, c'est ça. Ben, écoute, justement, parce qu'on va y revenir demain, parce qu'effectivement, c'est un gros discours qu'il se propose de livrer demain aux investisseurs français. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Carl, parle-nous un petit peu de Andrew Scheer. Andrew Scheer, qui est au Québec aujourd'hui, dis-nous pourquoi.
Bien, il met la table pour la campagne électorale, évidemment, pour sa campagne au Québec. Il fait quelques promesses. Le mot-clé, hein, c'est l'autonomie du Québec. On vise les électeurs caquistes. Il y a des thèmes qui seront familiers à nos auditeurs. Le rapport d'impôt unique, évidemment, une demande de François Legault et de d'autres, mais une demande de François Legault, donc les conservateurs sont all-in. Ils veulent absolument que ça arrive. Ils disent que l'important, c'est pas nécessairement les pertes d'emplois, les fonctionnaires qui pourraient perdre leurs emplois, mais c'est de simplifier la vie des gens. Difficile de pas être d'accord avec cet argument-là. Mm-hmm. Au niveau de l'immigration, évidemment, on est tout à fait d'accord avec François Legault. On veut laisser le Québec faire ses choix au niveau de l'immigration. En compensation, pour ceux qui parlent du problème de la pénurie de la main-d'œuvre, ben on annonce des incitatifs pour inciter les retraités à retourner au travail. Donc, la solution pour la pénurie de la main-d'œuvre, c'est de ramener les retraités sur le marché du travail.
Ah oui, Scheer a dit ça?
Oui, c'est un des cinq engagements.
Ça, c'est intéressant, ça. Intéressant parce que, m'a dit, pour avoir fait quelques tribunes téléphoniques sur le sujet, il y a beaucoup de gens qui ont pris leur retraite, qui seraient prêts à retourner travailler une, deux, trois journées par semaine avec de la flexibilité, là, si l'impôt ramassait pas le gros de ce qu'ils vont gagner ou si on les coupe pas autrement par les aides gouvernementales.
Et il faudra voir dans le détail quelles sont les propositions d'Andrew Scheer là-dessus, mais certainement, il y a un objectif de combler les problèmes de pénurie de la main-d'œuvre avec cette solution-là. En termes d'environnement, il semble vouloir faire de la lutte au déversement des eaux usées le pilier de son programme environnemental.
Oui.
Et l'autre annonce intéressante, deux ministres pour le Québec, un ministre du développement économique, un ministre politique dédié au Québec.
Un lieutenant, le retour du lieutenant.
Mais un lieutenant au sein du cabinet. Donc, c'est une promesse, on ne sait pas exactement quel sera le mandat, mais c'est un ministre politique qui sera nommé. Écoute, on a un extrait sonore de Andrew Scheer.
Comme premier ministre, je serai aussi ouvert à des aménagements permettant une plus grande autonomie au Québec dans le choix des immigrants admis sur son territoire.
Bon. OK, bien, c'est beaucoup Oh, pardonnez-moi, M. Scheer, je pense que ça va. On a compris l'essentiel. Bien, Carl, c'est ça. On est en campagne électorale. On est en pré-campagne. On est en année électorale, puis la pré-campagne a commencé. C'est ça que ça veut dire.
Ben absolument. La pré-campagne a commencé et Justin Trudeau n'attend pas que la campagne commence pour viser Andrew Scheer. On peut écouter son message.
Stephen Harper, Andrew Scheer, peu importe le leader, les propos qui divisent, les coupures dans les services et la volonté de retourner en arrière.
Ouais, ça, c'est un peu théâtral. Hein? Ça, c'est le retour de notre Justin prof de théâtre.
C'est notre Justin théâtral, effectivement, mais la campagne des libéraux sera ce thème-là. Andrew Scheer, Stephen Harper, c'est la même chose. Donc, on va tenter de faire peur aux électeurs pour ramener tout ce vote anticonservateur qui les a portés au pouvoir.
Quand j'entends Trudeau parler comme ça, j'ai l'impression qu'il veut refaire la campagne de 2015. Il l'avait gagné. Puis la question de l'urne, c'était qui c'est qu'on met à la place de Harper parce qu'on veut s'en débarrasser. Mais c'est comme s'il voulait refaire 4 ans plus tard, sauf que c'est lui qui est au pouvoir maintenant, c'est plus Harper. Mais en tout cas, on verra bien ce que nos citoyens électeurs pensent de ça. On va s'arrêter parce qu'au retour, tu veux nous parler...
Paul, du registre des armes à feu.
Oui, Paul veut nous parler du registre des armes à feu. Et Carl va nous parler de cette guerre des nerfs entre le Canada et la Chine. De retour donc avec Carl et Paul. Paul, tu veux nous parler registre des armes?
Oui, la date limite, c'est le 29 janvier. Donc, la date limite pour que les propriétaires d'armes s'inscrivent au registre. Mais le 29 janvier, c'est aussi l'anniversaire, entre guillemets, le très, très triste anniversaire de l'attentat à la mosquée de Québec. Et le président de la mosquée a fait une déclaration aujourd'hui. Lui, il souhaite qu'il y ait une plus grande vérification pour les troubles mentaux chez les propriétaires d'armes. Il dit que c'est peu ou pas vérifié et il donne évidemment l'exemple du tueur à Québec.
Sauf que le tueur de Québec, c'était pas des armes d'épaule qu'il avait?
Ben, il y avait une arme automatique qui
est vendue légalement.
Oui, c'est très étrange.
Ouais. C'est une arme d'assaut. Dans les faits, là,
Bissonnette, c'est une arme automatique. C'est une version civile d'un fusil d'assaut tchèque qui s'appelle le V258. Puis elle utilise même les mêmes cartouches qu'une arme semi-automatique très controversée, l'AR-15. C'est une arme aussi semblable à celle qui avait été utilisée par Richard Bain dans l'attentat contre Pauline Marois au Métropolis. Donc,
ces armes-là, les armes d'assaut qui sont légales présentement au Canada, celles-là, à mon avis, là, si Trudeau voulait faire quelque chose, là, c'est là-dessus qu'il devrait se concentrer.
Il faudrait vérifier le détail, mais il y a eu la loi C-71 adoptée en septembre dernier.
Oui, mais il y a beaucoup d'armes qu'on appelle avec restrictions qui sont encore légales et qui devraient, à mon avis, être illégales. Vas-y donc, Carl.
Juste avant Noël, rappelez-vous, messieurs, Justin Trudeau était à l'antenne du 98.5 et il se montrait ouvert à l'interdiction des armes de poing et des armes d'assaut.
Exact.
Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce ou quoi que ce soit. On est encore en période de consultation du côté du fédéral.
Alors, François Legault a réagi.
Oui, c'est ça. Bref, pour résumer, il y a deux débats. Un, quelle arme est-ce qu'on permet? Deux, pour les armes permises, quel genre de vérification est-ce qu'on fait pour la santé mentale? Le président du Centre de la Mosquée dit qu'on n'en fait pas assez. François Legault a réagi à ça.
Bien, on a déjà une loi qui est adoptée pour enregistrer les armes d'épaule. Il y a des gestes de prévention qui vont être posés. Je devrais être présent à la commémoration du deuxième anniversaire.
Mais il demande de mieux vérifier les antécédents.
Bien, pour l'instant, il n'y a pas rien de prévu de plus que ce qui existe actuellement.
Donc, pour décoder, c'est une question assez technique, puis je pense que François Legault n'était pas en mesure de dire si les vérifications à l'heure actuelle sont suffisantes ou non, et si elles sont insuffisantes, il faut que ça passe par un projet de loi, donc c'est pour ça qu'il a un peu botté en touche.
Oui, mais je pense que c'est du côté de Justin Trudeau qui doit botter là-dessus. Là. Il faut que Justin Trudeau décide d'ici l'élection, est-ce que je resserre le contrôle sur les armes à utilisation restreinte, qui sont dans les faits des armes quasi-militaires, qui sont absolument pas des armes pour aller chasser l'orignal puis le chevreuil. Ben voyons donc. Alors, qu'il laisse donc les chasseurs tranquilles. Là. Moi, je pense que les chasseurs, là, il faut qu'ils s'enregistrent. Là. C'est ma position, là. C'est la loi. Là. Il faut s'enregistrer là dans le registre du qui a été créé par le gouvernement du Québec. Là. Mais là, je pense que les chasseurs, là, à mon sens, à moi, ils ont fait leur part. Là, on peut-tu regarder là les armes qui sont pratiquement des mitraillettes, là, parce que tu as moyen de les rendre automatiques. Là.
On peut
s'occuper de ça, là, puis laisser faire le bon chasseur de perdrix, puis de lièvre, puis de canard, là, puis d'orignal. Là.
Bien, la balle est dans le camp de Justin Trudeau, mais faut, on est en année électorale, tu viens de le mentionner, et je peux dire que le caucus rural du Parti libéral du Canada a les deux pieds sur le frein sur ce dossier-là.
Ils veulent rien savoir d'un contrôle, même des armes d'assaut. Là. Exactement, parce qu'ils ont peur que ça lui coûte des votes dans le comté. Parle-nous un petit peu de la guerre des nerfs entre le Canada et la Chine, mon cher Carl, en deux minutes.
Écoute, jeudi dernier, à l'ambassade de Chine, l'ambassadeur de la Chine a averti que les Canadiens subiraient les conséquences si le Canada fermait la porte à Huawei pour le fameux réseau 5G qui s'en vient. Il a dit que si le gouvernement canadien interdisait à Huawei de participer au réseau, il y aura des répercussions. Évidemment, on sait qu'il y a déjà des répercussions par rapport à ce qui s'est passé avec l'arrestation de la dirigeante de Huawei à Vancouver le mois dernier. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, dit les pressions chinoises n'auront aucune incidence sur la décision du Canada. Là, les parlementaires voulant savoir plus, on a convoqué l'ambassadeur du Canada en Chine, John McCollum, devant le comité des affaires étrangères. Malheureusement, c'était à huis clos à cause des libéraux. Ils ne voulaient pas que ça se fasse en public, mais on a quand même pu interroger John McCollum. On peut écouter ce que ça donne.
Comme j'ai dit, j'ai parlé aux gens d'affaires canadiens ici au Canada et en Chine et ils veulent continuer avec leur commerce avec la Chine. Ce n'est pas tout à fait business as normal. There are some barriers that have come up, some Canadians who don't want to go to China. There are some Chinese who don't want to do as much business with Canada. The businesses want to continue.
Ben oui, c'est sûr. Mais moi, je ne crois pas un mot, Carl. Je ne crois pas un mot de la déclaration de Goodale quand il dit les pressions chinoises n'auront aucune incidence sur le gouvernement du Canada. Je m'excuse, là, mais pour une nation commerçante comme le Canada...
Mais c'est ça.
Tu peux pas ignorer les répercussions commerciales d'une décision qui pourrait être prise.
Et c'est ce que John McCollum disait, les investisseurs privés sont inquiets et c'est pas bon pour la business.
Voilà, exactement. On finit ce segment avec la business. On avait commencé avec la business. Tu vois comme on est cohérent, Paul Journet.
Dealmaker,
éditorialiste à la presse. Paul Journet, merci Paul. Carl Bélanger, consultant stratège politique. À demain!
À demain!